Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, dans Chrétien d'Orient, ce matin, je reçois Aram Kerhofpian pour une rencontre autour de l'idée, un projet, une ambition, Cœur en exil. C'est un film documentaire, mais c'est surtout un voyage musical. Nous sommes avec vous, nous partons de Paris, de la région parisienne, de Bruxelles, et nous nous rendons jusqu'en Anatolie, où nous redécouvrons, grâce à vous, la tradition musicale arménienne. Aram, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes né à Istanbul, vous êtes arménien, né en Turquie, devenu citoyen français. Vous êtes arrivé en France en 1977. Vous m'avez dit, je n'étais pas le seul à partir. C'était le grand exode des années 70. Vous avez été peintre dans votre prime jeunesse. Vous avez appris le kanoum auprès de maîtres, auprès de mentors, et vous êtes maintenant maître chantre à l'église arménienne de Paris depuis 1990,
c'est cela, 90,
je crois.
90, oui.
Voilà. Alors les personnes qui voudraient venir vous écouter chanter le plus simplement possible serait de venir à l'office le dimanche matin.
Il faut se lever de bonne heure, oui, à 8h30.
Alors expliquez-nous, c'est à l'église arménienne de Paris qui...
Oui, la rue Jean Goujon, dans le 8e, oui. Il y a les offices qui précèdent la messe, la liturgie divine. Et l'église à Paris, c'est l'une des rares églises arméniennes, surtout en Occident, qui font les offices entièrement. Donc, entre 8h30 et 10h30, nous avons les offices de la matin.
Alors, vous avez appris vous-même le chant auprès d'un maître que vous avez connu.
Mon prédécesseur, oui, Monsieur Arabian, à l'église arménienne de Paris. J'ai travaillé avec lui avant de le succéder.
Et un monsieur d'un certain âge qui vous a transmis.
Oui, il était né fin 19e siècle. Hein. Et il est mort à 92 ans, il chantait encore merveilleusement bien.
Alors nous recevons, j'essaye de recevoir des personnes qui peuvent nous parler de la musique. On a fait une émission avec Abed Azrier, avec Julien Weiss, avec Wassim Soubra. Mais nous n'avons jamais vraiment parlé de la musique arménienne en fait, et le chant. Pour vous, le chant arménien porte une longue tradition ?
Certainement, puisque les Arméniens ont une longue histoire, donc forcément, leur chant aussi a une longue histoire. C'est une longue tradition, et bien sûr, il y a la grande coupure du début du XXe siècle avec la perte du pays, hein, c'est-à-dire parce qu'on dit le génocide des Arméniens, mais ça représente quoi ? C'est pas seulement beaucoup de morts, mais aussi la perte du pays, c'est-à-dire un environnement naturel. Ça veut dire aussi la disparition des traditions locales, des traditions de chant locales. Aussi bien pour le chant liturgique que pour le chant populaire, hein, bien sûr. Voilà, donc ce qui survit depuis, on le trouve maintenant à des endroits différents. Dans le monde, aussi bien en République d'Arménie, surtout pour le chant populaire, pour le chant de paysans, que dans certaines poches de la diaspora orientale ou occidentale, notamment pour le chant liturgique.
Si on devait faire une représentation sur une carte de ces poches, quels seraient ces lieux de survivance ?
Ah, ce sont des lieux... Je n'ai pas fait le tour du monde pour voir cela, mais autant que je connais par exemple ce qui se passe à Istanbul surtout, un petit peu au Liban, Alep, quand c'était une ville normale. Il y avait, je sais que dans les années 80, il se passait, il y avait quand même des chantres traditionnels à New York, dans les églises arméniennes. Je sais qu'il y en a encore quelques-uns à Los Angeles, il y a ici à Paris, et dans des divers endroits, il y a, à part les chorales à l'occidental, vous voyez, les chantres traditionnels dont je parle. Donc il y a encore des poches comme ça.
Vous enseignez vous-même le chant ?
Bien sûr, oui. J'enseigne surtout la modalité, le chant modal. Et nous enseignons avec mon épouse ensemble. Nous faisons des cours et des ateliers régulièrement, depuis de longues années d'ailleurs. Depuis 1990, en fait, nous avons commencé ce travail expérimental de rechercher comment extraire une méthode de travail dans des conditions actuelles, dans la vie sociale actuelle, qui n'est plus comme avant, je dirais, entre guillemets. Et ce travail continue, nous avons notre méthode d'enseignement et nous faisons des ateliers régulièrement, non seulement à Paris, mais aussi ailleurs.
Et paradoxalement, je crois que vous avez peu d'élèves d'origine arménienne dans vos...
Oui, oui, les Arméniens, vous savez, les Arméniens, c'est un peuple qui chante tout le temps. On dit qu'à l'époque de l'Union soviétique, il y avait dans tout ce tout petit pays, il y avait 250 écoles de musique. Ça rappelle un peu l'histoire de la fontaine, la fourmi et la cigale. Et donc les Arméniens, ça chante tout le temps et qu'ils prennent ça gratuitement. Donc aujourd'hui, l'attitude générale qu'on voit, c'est que bon, c'est leur truc, n'est-ce pas ? Et ils n'ont rien à apprendre, ils le savent déjà. Donc les Arméniens naissent musiciens et musicologues, en fait. C'est pour ça que nous avons peu moins... le nombre de nos étudiants arméniens sont moins que les non-arméniens. Voilà.
Pourquoi vous avez fait un doctorat alors à l'école pratique de hautes études en musicologie ?
Et parce que plus on entre dans un sujet, plus on devient curieux, plus on découvre des choses et que ça... Et puis j'ai toujours eu une petite tendance dans le domaine de la recherche. Et notre travail pratique aussi encourageait cela. Donc maintenant, j'ai avec ces deux, depuis d'ailleurs longtemps, avec ces deux casquettes, je dirais, je suis beaucoup plus heureux parce que l'un alimente l'autre tout le temps.
Alors revenons au film « À cœur en exil » qu'on a pu voir sur certains écrans à Paris, un film qui va être disponible en DVD bientôt.
Mi-avril, oui.
Voilà, on va mettre les références sur notre page internet pour que les auditeurs puissent le trouver facilement. Ce qui est fascinant dans ce film « Cœur en exil », c'est que je parlais de voyage musical en introduction, c'est-à-dire que on vous voit revenir vous-même avec votre famille, avec votre femme, pardon. Avec un petit groupe.
Il y a aussi mon fils.
Votre fils. Vous revenez sur ces terres d'Anatolie.
Oui, ce n'est pas pour rechercher la musique, mais c'est pour rechercher les lieux où cette musique a vécu. C'était dans le cadre d'un travail théâtral que nous avons mené avec le troupe de Théâtre Zar, qui travaille dans le cadre de l'Institut Grotowski en Pologne. Et ce travail continue d'ailleurs, mais c'était la période de recherche sur le sujet, où la troupe de théâtre a travaillé le chant modal pendant 3 ans avec nous. Et puis nous avons fait 2 voyages, l'un à Istanbul, l'autre Istanbul et Anatolie, à l'est. Et nous avons vu ces ruines de monastères, ces lieux, ils ont pu sentir où ils chantaient. Les Arméniennes. Voilà.
Et vous-même, vous étiez déjà allé ou c'était une découverte ?
Moi, j'étais déjà allé. J'étais déjà allé, oui.
Dans quelles conditions ?
Avec un ami qui est historien, qui nous voulions voir un petit peu ces lieux-là.
Et qu'est-ce que vous en avez rapporté pour votre travail ?
Vous savez, c'est un peu déprimant de voir tous ces lieux, mais en même temps... il faut savoir aussi d'extraire... de l'espoir et de la force. Donc, ça nous remet les pieds sur terre, je dirais, de voir la réalité, de toucher, et non pas savoir uniquement par des livres et des photos.
La tradition modique du chant liturgique arménien, avec ses innombrables variantes et versions, a été en grande partie perdue. Une tradition qui va mourir, dites-vous, dans ce film.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne vit plus dans les mêmes conditions que, je dirais, même de la première moitié du XXe siècle, tout ça c'est fini. Donc maintenant la transmission se fait autrement, et parfois ne se fait même pas parce qu'on ne se rend même pas compte qu'elle existe. Donc ce n'est plus la même chose, mais c'est normal parce que les traditions meurent aussi. et meurt et ressuscite et se transforme. Une tradition qui ne change pas et c'est une tradition morte. Donc, quand je dis qu'elle va mourir dans le film, c'est parce que bon, ça va changer, ça va devenir peut-être autre chose.
Je voudrais rechercher une forme qui, en frappant, non seulement brise et émeut, mais c'est aussi embrasser l'homme.
Oui, ça c'est le metteur en scène qui le dit dans le film. Et c'est cette honnêteté qui m'a beaucoup lié à ce travail du théâtre. Et aussi, on parle du film, mais il faut aussi citer les réalisateurs de ce film, Nathalie Rossetti et Torifino Chiaro, qui aussi ont été tout autant honnêtes dans leur travail et qui une relation de confiance s'est établie entre nous dès le départ, qui a fait que c'est devenu un beau film. Parce que nous avons fait confiance et nous n'avons pas fait de rôle. C'est un documentaire, je rappelle. Un documentaire créatif, comme ils disent. Oui.
Est-ce que vous voyez une suite à ce voyage musical, à faire peut-être des concerts en Anatolie un jour?
Oui, j'espère bien, parce que, vous savez, nous continuons à chanter. Et nous chantons partout, là où nous allons. Et pourquoi pas un jour en Anatolie? J'espère bien.
Je suis avec Aram Kerovpian ce matin. Que venons-nous d'écouter ?
Nous venons d'écouter des chants dédiés à la résurrection. Ce sont ils proviennent de notre dernier CD, qui est entièrement dédié aux chants de résurrection. Des chants qui sont chantés à des différents moments dans l'année, tous les jours qui sont dédiés aux résurrections, notamment la plupart des dimanches. Et dans notre travail dans la chorale Hagen, dans le centre de recherche de Jean Modal Hagen, nous préparons des programmes plutôt thématiques. Quand nous enregistrons, les chants ne suivent pas un ordre liturgique, mais ils suivent un autre ordre, je dirais. Ce sont des chants que nous appelons Charagan, qui est un genre particulier dans le chant liturgique arménien, qui suivent le système de l'octoïkos, le système des huit modes qui existe dans beaucoup d'églises chrétiennes, qui sont dans des différents modes, qui sont dans des différentes thématiques et qui sont chantés dans des différents moments pendant les offices.
C'est votre voix, le premier solo?
Le premier, oui, c'est ma voix, oui.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la spécificité du chant modal arménien? Est-ce qu'on peut l'isoler ou est-ce qu'il appartient à une tradition beaucoup plus vaste?
On ne peut isoler aucun chant. Il y a une très grande famille des chants modaux qui s'étalent dans tout le Proche-Orient jusqu'aux confins de l'Europe, actuellement, je dirais, qui est plus ou moins audible, hein, parce que vous savez bien, la modernité, ça détruit beaucoup de choses. La musique des Arméniens, le chant des Arméniens, fait partie de cette grande famille. Ils se ressemblent tous, ils se ressemblent pas du tout à la fois. Et chaque musique a ses particularités, et notamment la langue a un rôle important. Et surtout dans le chant liturgique étant une tradition, je dirais, liée à la religion, donc plus ancrée, plus les choses se cristallisent au bout d'un moment. Donc il y a plus à rechercher dedans comme spécificité, plus on découvre les spécificités, plus il devient plus évident s'il y a des points de rencontre avec d'autres musiques ou non. Il y en a forcément entre chaque musique. Mais il est tout à fait erroné de dire qu'elle ressemble à telle musique ou à une telle autre musique. C'est toujours très très subjectif. Ça dépend de quelle musique nous connaissons mieux. Et nous faisons tout de suite référence à celle-là. Donc, de trouver des critères plus objectifs, cela demande beaucoup de travail.
Le chant est une respiration pour vous, quelque chose qui vous fait vivre?
Bien sûr, je crois que pour tous les êtres humains, c'est ainsi. Il suffit qu'on s'en rende compte. Je crois que les êtres humains chantent depuis qu'ils existent, comme les oiseaux. Mais les oiseaux prennent ça plus naturellement, et les êtres humains pensent maintenant qu'ils doivent être artistes pour chanter, alors que chanter, c'est pour tout le monde. Voilà. Et d'ailleurs, moi-même, je me considère plus un artisan qu'un artiste.
Vous évoquiez la tradition populaire tout à l'heure que l'on trouve encore en Arménie. Ce chant est quelque chose que l'on trouve dans les familles, dans les foyers arméniens.
Oui, dans les familles, dans les foyers, on en trouve encore. Parce que vous savez, à l'époque de l'Union soviétique, il y avait encore quelques villages où il n'y avait pas la télévision, tout ça probablement. Et aussi l'ancienne génération, les paysans, aussi des rescapés du génocide arménien de certaines régions de l'Anatolie qui avaient fui dans le Caucase. Ils étaient encore vivants, donc ils ont transmis le chant populaire ainsi que les danses populaires. Donc en Arménie, c'est le genre musical des Arméniens qui est resté le plus vivant, plutôt que le chant liturgique qui a été, bien entendu, décimé par le régime soviétique.
Est-ce que c'est une spécificité identitaire, par exemple, ce chant arménien qui peut mener à un ensemble plus universel pour rassembler d'autres hommes?
Le chant a de toute façon, par sa nature, cette fonction. Même si vous comprenez pas la langue dans chanter, et que si ça vient du cœur, ça parle aux gens. Donc cela crée des relations forcément entre êtres humains. Des relations plus directes que des relations basées sur l'intérêt.
Il y a quelque chose de très beau que vous dites ou que vous laissez sentir dans ce film Cœur en exil. C'est que quand on vous pose la question par rapport à la mémoire du génocide, vous dites qu'il ne s'agit pas simplement de réparation politique, de réparation matérielle, mais plutôt, sinon aussi, de réparation spirituelle.
Ah, je ne dis pas plutôt. Hein. Ce sont deux choses qui peuvent se compléter, mais le problème essentiel reste politique, bien entendu. Mais la politique est menée par des hommes, et les êtres humains. Les êtres humains ont besoin de force pour mener une lutte, quelle que soit une cause juste. Et le chant apporte une réparation spirituelle qui aide à se nourrir.
Vous dites aussi... Chanter permet d'exprimer verbalement l'existence de ceux qui étaient avant nous.
Et à ce moment-là, on vous voit déambuler dans un monastère près du lac de Vannes ou près de, des fontaines de Palou, je crois,
oui.
Dans une église en ruine.
Oui.
Donc vous pensez à toute cette tradition millénaire qui vous a précédé.
Vous savez, les chantres d'église, qui sont des gens ordonnés, hein, c'est des civils mais ordonnés, déjà, traditionnellement, quand un chantre chante, son maître il est en lui. Donc on porte en nous les générations qui nous précèdent. C'est l'un des aspects essentiels du chant de l'église, du chant liturgique. Les générations précédentes sont en nous, même si on fait quelque chose de différent, on est convaincu qu'on chante comme notre maître, voyez. Ça c'est quelque chose qui nous lâche pas.
Et quand vous avez vu ces pierres toucher cette terre d'Anatolie, vous avez revu cette histoire devant vous?
Ah, ça c'est très compliqué, parce que cette histoire pour nous les Arméniens, cette histoire elle est toujours avec nous. Comme je disais au début, toucher la pierre, ça nous ramène un peu plus à la réalité, parce que vous savez, dans nos vies actuelles, nous sommes aussi tentés de relativiser les choses, alors que c'est une réalité tout à fait actuelle que l'on sente tout de suite sur place. Et d'ailleurs, les gens qui vivent là-bas sur place, ils vivent avec ça, ils le savent. Ce n'est pas le passé pour eux.
On vous voit échanger avec des Kurdes, par exemple, dans des villages?
Oui, nous avons échangé avec tout le monde, parce que vous savez, dans les villages, on échange avec les gens de manière beaucoup plus sincère que dans les grandes villes.
Merci.
Merci à vous.
Je remercie Aram Kerhofpian ce matin pour être venu jusqu'au micro de Chrétien d'Orient. Je rappelle Cœur en exil, un film absolument à voir, un film documentaire dont nous allons mettre les références sur la page internet de l'émission sur le site de France Culture. Je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Emmanuel Couturier pour la réalisation de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant avec Michel Schaeffer. Merci.